Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc on va essayer de réfléchir un petit peu sur cette notion de la tfila, c'est-à-dire l'intellect dans la tfila. On parle dans la prière que le fait qu'Hachem il sache exactement ce qu'on a besoin, pourquoi est-ce qu'on a besoin de prier. Alors pour comprendre cette notion, il faut aller un petit peu dans le chiouf de tfila, dans l'obligation qu'on a de prier. Parce que c'est une grande marloquette, une grande discussion pour savoir est-ce qu'on a une obligation de prier entre le Rambam et le Ramban. En vérité, tout le monde est d'accord qu'on est obligé de prier, mais est-ce qu'on est obligé de prier tous les jours, ou est-ce qu'on est obligé de prier seulement le Shabbat? Alors, déjà, cette discussion en elle-même, au moment de la difficulté, déjà, cette discussion en elle-même, elle est bizarre. D'accord? Parce que, de parler maintenant d'une obligation de prier, parce que, quand si on réfléchit un petit peu, d'accord? Il y a une mitzvah d'être ma'amin b'Hashem, c'est une mitzvah de croire en Dieu. Alors, quelqu'un qui va croire en Dieu, ouais, il a une autre mitzvah qui s'appelle de faire les mitzvot. Maintenant, l'accomplissement des mitzvot, le fait même d'accomplir la mitzvah, donc c'est le vécu de la emouna. Quelqu'un, il a la emouna, il croit en Dieu, et à part ça, il a les mitzvot à faire. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on aurait eu l'obligation de prier? C'est-à-dire quoi prier? Ça veut dire quoi? Tu vas parler à Dieu. Mais évidemment, tu crois en Dieu. C'est bizarre. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cette question. D'accord? Il y a une discussion, est-ce qu'il y a une mitzvah de prier ou il n'y a pas de mitzvah de prier? Mais c'est quoi prier? Prier, ça veut dire c'est parler à Dieu. Parce que tu crois en Dieu, non? Tu crois? Alors pourquoi je vais te donner une obligation de lui parler? Mais évidemment que tu lui parles. C'est comme quelqu'un, tu te maries. Tu dis, est-ce que je suis obligé de parler à ma femme? Ben, t'es marié, non? Tu te maries, tu es obligé de parler à ta femme. Non, on verra les cas personnels. Mais, d'accord? Mais, t'es marié, tu parles à ta femme, t'as des enfants. C'est comme ça la Torah t'a dit. La Torah t'avait dit, vous aurez une obligation d'enseigner la Torah à vos enfants. Oui? Alors, et à part ça, vous avez une mitzvah de leur parler. Mais c'est bizarre. Mais de toute façon, c'est mes enfants, je ne vais pas parler à mes enfants. Alors, pourquoi j'ai une mitzvah de parler à Dieu? Parce que c'est ça, prier. C'est quoi prier? Prier, c'est parler à Dieu. Quand tu as besoin de faire une mitzvah, c'est un commandement, une obligation de parler. Et comment je vais faire? Je crois en lui, non? Alors, à qui je vais parler? Alors, à qui je vais m'adresser? J'ai besoin de quelque chose, à qui je vais parler? Ouais, et quand je vais exprimer ma emouna, à qui je vais parler? C'est bizarre. Vous avez vu cette question déjà, non? Bon, c'est logique. Donc, du coup, il faut, à travers cette question, on relie la marloquette, on relie la discussion de savoir est-ce qu'il y a une mitzvah, une Torah de prier ou non. Oui. Alors, on peut comprendre le Ramban. Il va dire, mais non, on ne parle pas de la prière. On ne parle pas du contact avec Hachem. Oui. On ne parle pas du kécher, du lien avec Hachem. On ne parle pas de la zékout avec Hachem. Ça, c'est évident. On parle maintenant que j'ai un besoin spécifique. Alors, Bishat Atrak, quand vraiment il y a un souci, il y a un problème, il y a un mal-être, alors tu vas t'adresser à Dieu. D'accord? Mais le Ramban, non. Le Ramban, il dit, non, chaque jour, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah de prier. Mais une mitzvah de prier, c'est très bizarre. Parce que, par exemple, quand je mets les téfilines, au moment où je mets les téfilines, je fais la mitzvah des téfilines, d'accord? Au moment où je ramène un objet perdu, je vois la brebis de mon copain, je cours, je la ramène. Au moment où je prends la brebis, je ramène, je fais Ashavat Aveda, je ramène. Mais comment, quand je veux dire, au moment où je prie, alors je suis avec Hachem, et quoi, les autres moments où je suis pas avec Hachem? Mais la prière, c'est toute la journée. Ouais, tu marches dans la rue. Ouais, ah, tu dis où est-ce que je suis? Ah, Bézrat Hachem. Ah, après, tu arrives quelque part. Ah, Baruch Hachem. Après, tu dis, le business, j'espère qu'il va marcher. Après, je parle à ma femme, pourvu qu'elle comprenne. Toute la journée, on parle à Dieu. Ouais, alors quand le Rambam est venu, il y a une mitzvah spécifique de prier, d'accord? C'est d'arrêter les choses pour dire, attention, maintenant, je vais faire la prière maintenant. Maintenant, je vais prier. Ouais, alors en quoi c'est plus que quand tu te réveilles le matin, tu dis mon dernier. Ouais, en quoi c'est plus que quand tu t'adresses à lui parce qu'il t'arrive quelque chose? En quoi c'est plus? Qu'est-ce qu'il y a de plus dans cette mitzvah-là de prière? Et pourtant, la Gemara dit, c'est marqué dans le Krat Shema, « Olrovdo bechol levavchem » et vous le servirez pour le servir de tout votre cœur. Vous voyez, elle dit « Ezo yavoda shemalev » Zot fila, la Gemara dans ta Halit, elle dit c'est quoi la avoda, le service divin? Parce que « Olrovdo » pour le servir de tout votre cœur. Alors, c'est quoi cette avoda shemalev? Donc maintenant on a un remèze dans la Torah. C'est pas un petit mot en l'air. Vous voyez? Il n'y a pas écrit prier. Il y a écrit servir Hachem par le cœur. Donc tu sers Hachem avec tes mains. D'accord? Bah, tu écris la mezouza, tu mets les téfilines. Tu sers Hachem avec tes yeux. Tu sers avec ta bouche. Vedibartabam, tu dis les paroles de la Torah. Maintenant Hachem est venu, il a rajouté au rondo bechol de la fête. Tu vas le servir avec ton cœur. Oui, il y a une avoda qui se fait avec le cœur. Maintenant, il y a écrit Bechol Levavchem. Parce que Levavchem, c'est normal. Pourquoi le cœur? Le cœur, c'est quoi? Le cœur, eh ben, c'est ta personne. Le cœur, c'est ta conscience. Oui. Donc, de toute façon, tu fais les choses avec le cœur. Si tu ne les fais pas avec le cœur, on ne parle pas maintenant de faire avec le cœur, c'est-à-dire avec les sentiments, avec les émotions. Non, faire avec le cœur, ça veut dire on dit en hébreu, noten lev. Ouais. L'item lev, donner son cœur, en vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire être concentré sur ce qu'on fait, être à 100% dans ce qu'on fait. Donc, de toute façon, on fait les choses avec le cœur. Sinon, on parle des zombies. On parle pas on parle de quoi? Des animaux. Non, quelqu'un, il fait les choses avec son cœur. Mais là, elle a dit, Bechol Levavchem. Donc, les chachamim, ils ont été médaillés, ils ont appris de là, comment est-ce qu'on doit faire? Il y a un supplément. Il y a un supplément de concentration. Et c'est ça la kavana. Oui, ça veut dire que la prière, elle demande plus d'attention que l'attention normale. L'attention normale, c'est comme quand tu conduis. Tu peux conduire et parler avec un copain, tu peux travailler à l'ordinateur et écouter un cours en même temps. Mais quand tu vas signer une affaire, il y a 7 millions d'euros. Là, tu dis, il me faut toute ma tête. Là. Tu coupes le téléphone, tu dis à tes enfants, arrêtez de faire du bruit. Là, il faut que j'ai toute ma tête parce que c'est très important. Chaque alinéa, il peut te planter de 7 millions d'euros. Chaque alinéa, donc là, tu vas mettre toute ta tête. Là, ça s'appelle Bechol Levavchem. C'est important. Oui, tu vas te poser. Alors maintenant, imagine cette concentration que tu as au moment où tu es en train de signer un gros contrat. Alors maintenant, elle donne une autre lecture. Elle dit, par exemple, tu vas aller voir un roi dont la vie de ta famille dépend. Ouais, ils sont condamnés à mort. Et le roi a réussi par du piston à avoir un rendez-vous. Et à ce moment-là, tu vas parler avec le roi. Alors quel genre de concentration tu vas avoir à ce moment-là? Oui, quel niveau de concentration? Tu sais que tu as un rendez-vous avec le chef de la Gestapo, il a accepté de prendre 10 000 dollars pour sauver ta famille. Alors comment tu vas faire? Tu vas lui dire, bon, en fait, on s'arrange pour l'argent, j'ai un match de foot à voir. Non. Ouais. Ouais, tu vas penser à autre chose, tu dis, j'ai bien fini hier soir. Non. Hey, c'est la vie et la mort. La vie et la mort. Oui. Alors c'est pareil. Hachem, Memit ou Mechaye. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort. Tu as rendez-vous avec lui maintenant. Et tu vas lui poser ta question. Tu vas lui poser ton problème. Alors, quel niveau de concentration tu vas avoir? On te dit, ou le rovdo, Bechol Levavchem. Pourquoi? Pourquoi on a besoin d'une kavana spéciale? Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est très important. On a de toute façon le contact avec Hachem, on l'a. Mais il y a des niveaux. Ouais. Par exemple, on dit, tous les Bnei Israël sont ma'aminim, béné ma'aminim. On est tous des croyants. Donc, il y a une croyance, stam. Tu es croyant? Ouais. Un Israélien, sans qu'il fasse rien, qui mange le sandwich poulet dans l'avion à côté de toi. Ouais, il te dit, oh Hachem, mais il mange avec toi, à côté de toi, le sandwich poulet de EasyJet. Ouais, tout à l'heure dans l'avion, là en venant. Mais il te dit, oh Hachem, attends, Imano, il t'a dit, on est protégé, tu es avec nous dans l'avion, on est protégé. Je dis, toi, quand je suis pas là, comment tu fais du beurre? D'accord? Ça veut dire que, il y a une Emouna Pshuta, d'accord? Après, il y a une Yedia. Il y a même un philosophe, tu parles, est-ce que Dieu existe, évidemment, Dieu existe, évidemment. Il y a une Yedia. Une émouna, en plus, et après, il y a une idia. Après, il y a quelqu'un qui va vivre en fonction de cette idia. Déjà, un peu plus religieux, déjà. Oui. Et après, il y a quelqu'un qui va parler avec Akadosh Baruch Hu. C'est un niveau encore plus fort. Et après, il y a un, il va être kol kulo im Hashem. Shiviti Hashem lenegdi tamid. Le matin, l'après-midi, le soir, sans arrêt, au point que le Nefesh HaHaim, il demande... Comment on fait pour penser à Dieu aux toilettes? Parce que tu es Mahamine qui est aussi dans les toilettes. Mais c'est à son de penser à Dieu dans les toilettes. Mais il est aussi dans les toilettes. Ouais? Parce que tu vas dire, il y a des endroits où Hachem, il n'est pas. Ou les endroits où on n'a pas le droit, par exemple, de penser à des livres et Torah. Parce que c'est pas comme on a pas des endroits sales. Mais Hachem, tu crois qu'il n'est pas là-bas? Hachem, il est aussi là-bas. Ouais? Il est partout. À tel point que c'est une halakha que si quelqu'un il a peur de faire des avérotes, le genre d'avérotes qu'on peut faire dans les toilettes, ouais, il a le droit même de dire des psukim à voix haute, des psukim de la Torah à voix haute pour se sauver de la véra, pour se sauver de la faute. Ouais. Sous-entendu que peut-être Hachem, c'est sûr qu'il est là-bas, mais peut-être que là-bas tu as encore plus besoin d'Hachem. Comme si tu es seul dans une chambre d'hôtel là-bas de l'autre côté de la terre, peut-être tu as plus besoin d'Hachem qu'à la synagogue. Que de toute façon. Il y a toutes les copains qui te regardent. Oui. Il dit donc, ça s'appelle quoi? ça s'appelle la Dvekut Bachem, c'est-à-dire d'avoir un contact, de garder une conscience perpétuelle d'Hachem qui soit très élevée. Et où c'est marqué ça? La Gemara dans Brachot, Dafka Fret Amoubet, elle est très connue, quand c'est marqué, quand les élèves de Rabbi Eliezer, ils allaient pour mourir, il a reçu ses élèves chez lui à la maison. Il leur a dit, donne-nous des chemins, ils lui ont dit, donne-nous un chemin pour aller au Lamaba. Alors, une des choses qu'il a dit, que chez Atem Mitzpalelim, Deon, Lifnemi, Atem Omdim. Au moment où vous priez, sachez devant qui vous voulez. D'accord? C'est marqué dans toutes les synagogues, Da Lifnemi, Ata Omed, sache devant qui tu te tiens. Maintenant, cette notion-là, de Da Lifnemi, Ata Omed, en fait, de là, il vient une halakha, qui est qu'au moment où tu pries, tu dois être conscient que tu pries devant Dieu. D'accord? C'est une halakha. Dans le Shulchan Aruch, d'accord, qu'une des kavanotes que quelqu'un doit avoir, la kavana la plus évidente, la concentration la plus évidente, c'est Pirush Hamilim, c'est-à-dire que tu dois comprendre les mots que tu dis, d'accord. Mais le deuxième niveau, attention, et comprendre ce qu'on dit, ça veut dire, c'est pas seulement que tu sais, ça, si on te demande, bon, ça veut dire quoi, Tachonen? Ah, tu dis, ouais, je sais ce que ça veut dire, Tachonen, je sais ce que ça veut dire. Non, c'est pas que tu dois le savoir si on te demande, c'est qu'au moment où tu dis Tachonen, tu dois comprendre Tachonen. Maintenant, quelqu'un qui parle bien hébreu, et qui, le problème c'est que nous, on parle hébreu mais on pense en italien ou en français. Donc, malheureusement par automatisme, quand tu dis Atachonen, tu ne penses pas Atachonen. Tu dis Atachonen, mais tu ne penses pas, tu prodigues Atachonen l'Adamdad. Donc, tu es obligé de faire l'effort au moment où tu dis Atachonen de traduire, tu prodigues, pour avoir la concentration. D'accord? Ça c'est Pirush Hamilim. Mais il y a une autre, kavana, une autre concentration, ça s'appelle au moment où vous priez, vous devez savoir devant qui vous priez. C'est quoi la da'at? On a expliqué déjà un million de fois que la da'at, c'est quoi da'at? Da'at, ouais, la yidia, la connaissance, c'est chibour. C'est-à-dire, c'est le lien. Pourquoi? Parce que le Maharal, il explique quand c'est marqué Adam, yada et hava, Adam a connu sa femme, et là-bas, on parle de quoi? Qu'il a été avec sa femme. Il demande le Maharal, pourquoi est-ce qu'on a employé un langage de yidia? De connaissance. Même chez les Goyim, quand quelqu'un dit il a connu sa femme, ça veut dire il a été avec sa femme. Alors il dit parce que Léolam, la Torah Médadaret, Bélachot Nekia, la Torah elle parle dans un langage qui est propre. Ouais. Mais le Maharal dit non, ça va plus loin. Pourquoi? Parce que c'est quoi la da'at? Savoir, c'est faire un. Comme le corps de l'homme et le corps de la femme, ils sont ensemble au moment de la relation, la da'at, c'est de faire un avec ce que tu sais. C'est de faire un avec ce que tu penses. C'est que tant que toi, tu ne vis pas ce que tu penses, ça s'appelle que tu ne sais pas. Ça va? Beaucoup de gens, ils font des choses. Je leur dis, tu sais, fais attention. Mais je sais. Alors pourquoi ils le font s'ils disent ça, que ce n'est pas bien? Et pourquoi les gens, ils comprennent après la gravité de ce qu'ils ont fait? Par exemple, j'ai vu plusieurs cas où le gars, l'Oralekhem, il était dans l'adultère. Mais tranquille! Ouais, pas un adultère comme ça. Une call girl à Hong Kong un soir. Non, un truc qui dure depuis 3 ans avec la secrétaire et les cadeaux et les mensonges et les paiements en liquide et les hôtels bloqués et les mensonges. Je suis en stage et j'ai rendez-vous avec les clients. Tout, des 2 ans, 3 ans, mais tranquille, nahat rouah. Et un jour, il s'est malgravé. Et bien, c'est très bizarre. Moi, j'ai constaté de ma petite expérience zoologique sur ce genre de cas que la personne. Tant qu'elle ne s'est pas fait attraper, elle ne voit pas la gravité. Parce que moi, il me téléphone en pleurs. Ah, mais j'ai crié! Il faut faire quelque chose. Il faut un rendez-vous tout de suite. Ah, mais j'ai dit, 5 000, 10 000, 100 000 euros. Je dis, qu'est-ce que tu veux payer maintenant? Il me dit, c'est quoi le problème? Voilà, ma femme a découvert. Oh, j'ai fait une grosse bêtise. Et elle a découvert. C'est-à-dire, elle a découvert quoi? Que tu as fait une grosse bêtise. Un jour, je dis, non, en fait, ça dure depuis longtemps. Et en fait, j'ai des doutes. Et le couple ne marchait pas. Bon, c'est toujours la faute de l'autre. Ouais. Alors, et maintenant, je me suis fait attraper, et j'ai compris, et je veux sauver ma famille, et je veux sauver mon image, et j'ai honte devant mes enfants, et mes beaux-parents, ils vont me tuer, et je suis connu dans la communauté. Je lui dis, mais pourquoi tout cet argumentaire, il sort maintenant? C'est qu'avant, il y avait le coma. Un coma volontaire, médical, accepté. Ouais, et d'un seul coup, il s'est fait attraper. Ah, c'est bizarre. Non, mais c'est bizarre. Monsieur, non. Le gars, il fait la bêtise. Eh ben, il assume, sa femme l'a attrapé, il dit bon, ok, eh ben, c'est pas grave, eh ben, tu le sais, non, voilà, voilà, je t'ai jamais aimé, de toute façon, t'es grosse, voilà, on divorce et c'est tout. Non! Oh mon amour, mais c'est toi-même, t'es la mère de nos enfants, mais t'es folle, mais c'est bien, ça c'est tout, c'est fini. Je comprends pas pourquoi. C'est ça l'argumentaire que tu donnes pour sauver ton couple. C'est l'argumentaire que tu aurais dû utiliser pour éviter de fauter. Parce que quand l'autre folle, elle est venue, et qu'elle t'a dit, on y va. Tu lui dis, je ne peux pas, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, mais je vais me salir, je vais me polluer, je suis connu de la communauté, mais vos parents me font confiance, ma femme, elle est avec moi à 100%, elle me suit, elle me soutient. C'est ça l'argumentaire qui t'aurait évité de fauter. Alors ne dis pas, je ne connaissais pas cet argumentaire. Bon, qu'est-ce que les gens disent? J'ai pris conscience, maintenant je me rends compte de la gravité. Mais alors c'était quoi avant? Un zombie? Un cadavre? Une charogne? C'était quoi? C'est bizarre, non? Tous ces rendez-vous, et ces taxis, et ces mensonges, et ces effacements de textos, et ces codes dans email, tout ça, c'était quoi? C'était pas toi, c'était qui alors? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, la personne, elle dit, je savais, mais maintenant j'ai compris. Eh bien, c'est ça la date. Alors, c'est vrai ou non? C'est ça savoir. Comme les gens, ils disent business. Non, tant qu'il n'a pas pris une bonne tréha, il n'a pas compris l'aspect du business. Ouais, maintenant il a pris une bonne tréha, il a compris. C'est pas facile. Avant c'était facile, ouais, c'était la brava. Alors qu'il a pris un bon stress, il a compris. Ouais, comme l'autre travaille avec son père. Tu vois pas, il dit ouais, je suis dans le business. Non, dans le business. C'est ton père qui a les cheveux blancs. Tu vois, t'es tranquille, tu viens, tu pointes et tu encaisses. Non, vas-y, va te battre avec le client maintenant. Va débloquer la marchandise, elle est en comble, va débloquer les douaniers, tu dis rien qui passe. Très bien, ils vont trouver une chemise. Lacoste, à l'intérieur des 232 000 chemises. Ils ont trouvé rien qu'un paquet. Ouais, un emballage Lacoste. Fred. D'accord, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Là, tu deviens fou. C'est là qu'on a besoin de toi. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé maintenant? C'est que maintenant, tu es rattrapé par la réalité. Et à ce moment-là, tu dis, ah, j'ai compris. J'ai compris qu'est-ce que c'est le business. Ah, maintenant, j'ai compris qu'est-ce que c'est le limouille. Ouais, je te dis, tu dis la Torah. Je te dis la vérité. Tant que tu ne l'as pas enseigné, tu n'as pas compris ce que c'est étudié. Puis c'est quand tu enseignes, c'est pas quand tu étudies. Quand tu étudies, bon, tu as un chat, un faux chat, un vrai chat, tu tournes la page, tu avances. Quand tu enseignes, les élèves, ils t'attendent. Ah, mais c'est faux, là. Là, on répondra plus tard. Non, c'est faux, ce que tu dis, c'est faux. Ouais, tu casses la tête. Donc, tu ne prépares pas de la même manière quand tu vas enseigner et quand tu vas étudier. C'est pour ça que le Maharsha, il dit, quand c'est marqué Adam et Amal Yulad, l'homme a été conçu pour le Amal, oui. Le Amal, c'est quoi le Amal? C'est l'effort. Il dit, le Amal, l'Amed, Aïn, Med, l'Amed, c'est l'Ilmod, Al-Menat, l'Amed. C'est ça le Amal. Le vrai Amal, c'est l'Ilmod, Al-Menat, l'Amed. Parce que tu vas crever pour préparer le Shivo, alors que tu fais de la faillite, mais comme ça, mais tu mets, quand les gens, ils mettent leur casque, ils écoutent, moi, personnellement, je j'accuse personne, mais je ne crois pas que c'est du limitant. C'est de la culture, c'est sympa, c'est bien. Tu tournes les pages, comme ça le chasse il va pas moisir. Tu vois, tu l'aères. Mais t'as crevé, tu t'es cassé la tête, t'as réfléchi. T'as un kinyan, t'as un khidouche. C'est quoi Mizvatan Anashim Elumada alors? Ouais, bon, je sais, c'est mieux que rien. C'est ça, c'est mieux que rien. Mais ça s'appelle Yedia. Ah bon? Qu'est-ce que ça fait il y a 3 jours? T'as étudié le DAF? C'était quoi? Ça parlait de quoi? Trois jours. Bon, alors, ce matin. Mais une chose sur laquelle tu as travaillé, tu t'en rappelles. Pourquoi? Parce que En Adam, l'homme est là, il gagne les chalbos. Un homme n'apprend que ce dans quoi il a trébuché. C'est quoi trébucher? C'est pas forcément trébucher à des jeunes qu'il a volé. Ouais? Mais trébucher, ça veut dire qu'il est confronté à la lara. Maintenant, il a un problème. Voilà, Shabbat matin, le gosse, il a tiré la prise de la plata. Voilà. Alors, tu peux remettre la prise. Tu dis, c'est les Tzoref Serouda. Non, c'est Tzoref Beten. Après, tu dis, je peux tirer un goy, mais Remez. Bon, la petite, elle est jeune, elle a 6 ans. Après, j'ai vu, j'ai pas trouvé de plata dans Mishnah Brura. Ah, j'ai vu le Yalkout Yosef. J'ai pas trouvé là-bas. Ah, j'avais un petit kitsour là-bas. À la fin, tu l'as trouvé. Tu as passé 2 heures à chercher, tu l'as trouvé. Sache que c'est à la fin que tu vas t'en rappeler toute ta vie. Parce que tu as travaillé dessus. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, l'épreuve? L'épreuve, elle a fait que tu as rencontré la halakha. Donc, tu as fait tout le Mishnah Brura Gimel. Peut-être tu as fait tout le Shmirat Shabbat Kinheta. Mais cette halakha, chiffre à la tuile. Tu t'en rappelles pas.
t'as pas mis sur le feu. Mais maintenant que tu l'as cherché, c'est fini. Pourquoi? Parce que tu t'es rapproché. C'est ça la da'at. Maintenant, tu t'es rapproché. Quand la réalité, elle a rencontré la connaissance, maintenant, la connaissance, c'est toi, vous faites. Hein. C'est la soudure entre toi et la connaissance. C'est ça, avec Adam, Yada et Hava. Oui, ils ont fait un. Donc toi, tu dois faire un. C'est ça. Et moi, les Chokma, Achoti, At. Dis à la Chokma, tu es ma sœur. Elle a dit, ah, désolé, la Gmara, elle dit, c'est quoi? Par exemple, quelqu'un qui rêve qu'il a une relation avec sa sœur, c'est un bon siman. On ne parle pas des pervers, bien sûr. Bien sûr, ouais. Mais la Gmara, elle dit, pourquoi? Parce que la Torah, elle s'appelle ta sœur. Alors pour ça, c'est marqué, et moi, les Chokma, Achoti, At. Dis à la sagesse que tu es ma sœur. Alors les commentaires, ils expliquent. Rachid, là-bas sur place. Il dit, comme l'interdit de la sœur, il est évident, ouais, eh bien, il faudrait que tous les dîners Irouvin, pour toi, ils sont comme l'interdit de la sœur. Il faudrait que les dîners de Kashrout, ils sont comme l'interdit de la sœur. Il faudrait que les lois du business, ils soient comme l'interdit de la sœur, qui est évident pour toi. Mais c'est pas évident, parce que on n'est pas tous des Dayanim. Un jour, il y a une histoire avec Moshe Feinstein. Je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire. Un jour, il sortait de la voiture comme ça, et il y a un gars qui l'a attrapé dans la rue, avec un petit peu de papier, un petit peu comme ça, il avait fait un petit croquis du quartier. Il a dit, Arabe, un égard pour la jolie ici, on a l'arrivée comme ça, est-ce qu'on peut faire un Hérouv? Ouais. Dans la rue, comme ça, sortant de la voiture, c'est compliqué, Hérouvine, à la chôte de Hérouvine, c'est pas simple. Il a dit, est-ce qu'on peut? Alors, Moshe, il a fait, comme ça. Il y a un petit vieux à côté, il s'est énervé. Il a dit, ma poski, ma chôte Hérouvine, kachavarechov. Genre, on est posé qu'à la race, on est loin de l'Irouvine comme ça, dans la rue comme ça, avec un petit papier. Genre, il a jeté un peu le rab. Et Rav Moshe Feinstein, il a dit, quand on a fait 400 fois le Shulchan Aruch, on peut être posé dans la rue sur un petit papier. Ça va? Mais quand on ne l'a pas fait, on peut se la fermer aussi, on a le droit de dire un Ilo Yoder. Peut-être, ça s'est permis. Et cette logique-là, vous avez compris que la Yedi'a, c'est de faire corps. Ouais, comme on est fiancé. En vérité, la relation intime, elle va finir la connaissance. C'est pour ça que la via, la relation intime, c'est le Gmar Kinyan. C'est-à-dire qu'on se marie avec le Kesef, on donne, on se marie avec la Ktuba, ouais, on se marie avec la Kopa, mais la fin du mariage, c'est la relation. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va entériner le fait qu'on va faire un. Alors c'est exactement pareil. Toi tu as des notions, tu as des idées, après tu vas étudier, tu vas bien étudier la soudia, après tu vas la refaire, après tu vas la préparer, après tu vas l'enseigner, après tu vas aller voir la halakha, et après tu vas être posé avec la halakha. Maintenant tu sais. Regarde le chemin pour savoir. Oui? Ça veut dire que combien de temps on met pour savoir ce qu'on sait? C'est ça que j'ai dit moi souvent, mais les gens ils croient que je rigole. C'est que tant que tu ne vis pas ce que tu sais, dis je ne sais pas. Tu gagnes du temps. Parce que comme tu cumules des choses sans les vraiment les comprendre, donc en fait tu ne les sais pas. La preuve c'est que Béchat Marassé, tu t'en rappelles pas. Et même si tu t'en rappelles, tu ne vis pas en fonction. Après tu dis bon, je ne suis pas encore au niveau, ou alors c'est pas simple, ou alors ça c'est de la hassigout. Alors je comprends pas, alors pourquoi tu l'as appris alors? Tu dois vivre ce que tu sais. Alors, quand tu vis ce que tu sais, tu commences à le savoir. D'accord? Alors, puisque la Yedia, c'est ça, c'est de faire un avec ce qu'on sait, d'accord? Donc, c'est quoi Dalif Nemi Ataromed? Sache devant qui tu te tiens. Prends le même principe et reviens à ça. Ouais, que le niveau de compréhension et le niveau d'évidence et le niveau de réalisme que tu as à l'intérieur de l'Alaha, et le niveau de réalisme que tu as sur l'amour que tu as pour ta femme et pour tes enfants, et le niveau de réalisme que tu as pour ne pas voler, il faut que tu aies ce niveau de réalisme avec Hachem. Moi, je vois des gens, des fois, ils disent, bon, j'ai triste, c'est pas évident. Alors, je leur demande, mais vous mangez du cochon? Mais non, c'est des faux. Je dis, vous mangez du cochon? Ils disent, mais non, je mange pas de cochon. Alors, mais c'est dur de ne pas manger du cochon? Ils disent, non. Je dis, mais pour 100 000 euros, vous ne prenez pas un petit sandwich? Je vous donne un sandwich au cochon. Pour 100 000 euros, vous mangez? Elle dit non. Alors je dis pourquoi? Le cochon, vous avez accepté que c'est même pas la peine de rêver, et le gazelle, c'est pas évident. Et regardez la voisine, c'est une tentation. Pourquoi? Quelle différence entre ça et le cochon? Dans le Sefer Torah, toutes les lettres, elles sont à la même hauteur. Pourquoi cette avéra-là, elle est impossible, et celle-là, elle est évidente? Parce que là-bas, tu as intégré quelque chose à 100%. Oui.
ta teshuva sur le cochon, elle est à 100%, mais les autres choses, c'est pas évident. Comment ça se fait? Donc ça veut dire que tu n'as pas encore la madriga de la yedi'a de ça. Maintenant, ce niveau d'évidence que tu as, que Chas v'Shalom, même pas en grève, que tu regardes même le cochon, tu n'as même pas la tentation. Et bien, dans la, ce qui existe dans la négation de l'interdit, du lotarassé, tu as la même chose dans le rassé. Que c'est évident que tu vas manger dans la soukha. Oh, c'est évident, il dit, non, tu peux pas, tu peux, je n'ai même pas mangé. Ouais, c'est évident, pour, c'est évident que tu veux les tefilines. J'ai dit, oh, excusez-moi, j'ai oublié, comment tu as oublié les tefilines? Mais c'est comme la respiration. Comment tu as oublié les tefilines? Comment tu as oublié les tefilines? Quelle heure il est? Oh! Donc, ça fait, dans, c'est, vous savez que les 248 mitzvot assez correspondent à 245 membres, plus 3. Ouais. Il y a 248 membres, chaque mitzvot. Dis-moi, tu peux vivre avec un membre en moins, toi? Tu vois, le gars, il arrive à faire le travail, il lui manque une jambe. Il dit, oh, je l'ai laissé dans le lit. Maintenant, pourquoi il y a une correspondance entre le membre et la mitzvah? Parce que hein, tu dois arriver que la mitzvah, c'est ton corps. C'est pour ça que quand le Talmid Chacham meurt, on l'enterre avec un Sefer Torah, ouais, et on dit qui yemze, machekatouf basé. Il a accompli celui-là, ce qui est écrit dans celui-là. C'est qu'en vérité, le Talmid Chacham, c'est un Sefer Torah vivant. Vous me suivez ou... C'est un Sefer Torah vivant. C'est ça, Talmid Chacham. Mais tu... bon, ben, ça c'est pour les rabbins. Non! Chaque juif, il a 248 membres. Est-ce que les ignorants, ils ont 3 membres? Ils ont 10 membres. Ils ont 248 membres, comme les familles. Donc chaque juif, il a une mitzvah, oui, de représenter physiquement les 248 mitzvot. Et comme il y a une évidence pour toi que le chazir, il est assour, oui, c'est évident pour toi que tu ne peux pas dormir sans faire le Kriyat Shema. Comment tu vas dormir? Même ton cerveau, il fait tu peux pas. Tu peux pas, tu peux pas dormir sans avoir payé ton ouvrier. L'ouvrier, il a travaillé, tu le payes. L'autre arrive. Ah, tu peux pas laisser, tu... Ah, demain, après demain. Non, c'est une mitzvah. Mais il dit rien, on a l'habitude. On... Non, t'as pas compris, on s'en fout ce qu'il pense lui. Toi, t'as une mitzvah. Comprenons, non. C'est comme tu dis, je ne vais pas les tuer, de toute façon, ils me diront rien. Ils supportent les tuer, ils ne disent rien. Mais ils vont rien dire, les tuer. Et ben, l'employé, c'est une perte de tuer. Alors toi, tu as une mitzvah de payer, tu payes. Et c'est ta mitzvah. Elle n'a rien à voir avec lui, à la limite. C'est pas pour lui faire de la peine ou pour lui faire plaisir. C'est pour faire, comme une mitzvah de chachamim, de vérifier tes poches avant de sortir. Tu dis, mais c'est le costume de Shabbat, qu'est-ce que j'ai besoin de vérifier? On dit, oui, mais de peur qui... Mais quelle de peur? Mais non, tu sais pourquoi tu vérifies? Tu vérifies pas pour éviter de sortir avec les choses dans la poche. Tu vérifies parce que c'est une mitzvah de Rabbanan de vérifier. Tu veux prendre un sera, une récompense de plus, de dire je vérifie. Pour rien, j'ai pas besoin. C'est un costume, je le mets que le Shabbat. Il n'y a jamais rien. Et je le vérifie. Et j'ai un sera. Comme les toilettes, on rentre aux toilettes, c'est une halakha, tu fermes les toilettes. C'est comme ça. Les femmes, c'est obligatoire. Les hommes, c'est pas tellement obligatoire. Parce qu'il y a plein de moins de problèmes de stream, parce que si tu rentres, le gars il est de où? Alors, il n'y a rien à voir. La femme, c'est compliqué. Mais maintenant, toi, tu dis pourquoi? Tu dis moi je ferme les toilettes. C'est pas un problème de pudeur. C'est parce que c'est marqué dans le Shukranaro qu'il faut fermer les toilettes. Je ferme les toilettes. Mère Patlecha, de faire encore une halakha. Et Mère Patlecha, que grâce à ça, t'es encore plus proche d'Hachem. Ou tu dis non, je fais ce qui est utile, ce qui est nécessaire, ce qui est obligatoire, ce qui est pratique. Ce qu'on appelle les juifs pratiquants. Non, tu dis pratique, pas pratique, compliqué, pas compliqué. C'est comme c'est leur demi-fra, c'est dans un aéroport. Eh ben, tu vas, tu fais mitra. Ah, tu dis, tu sais, les gens, ils te regardent, c'est Hiloul Hashem. Hiloul Hashem, au contraire. Il y a un juif perdu, un Israélien qui est venu là-bas, qui est en train de manger du chien, il te voit. Tu te rends compte, le gars, il n'a pas honte. Et moi, j'ai honte d'être juif. Eh ben, il va se réveiller, il va rentrer chez lui, il va rentrer à Tel Aviv, il va dire à sa femme, allez, on arrête de manger du singe. C'est pas mal, déjà. Ouais. Donc toi tu sais même pas, tu es en train de faire la mida et il y a un gars qui te voit et tu sais pas, t'as fait un zikouya rabim sans le savoir. Ou non, tu fais genre discrètement comme ça, à la cabine téléphonique. Et... HM, soit tard. Il y a longtemps que je faisais comme ça, je prenais le téléphone et je parlais. Moi, je les ai déjà par la chaîne. Il n'est pas de demander aux gens, vous connaissez le numéro? J'appelle la chaîne. Surtout les trois passes, c'est compliqué avec le fil. D'accord? Mais c'est quoi l'idée?
L'idée, c'est juste une gemara. Dans le rapport de la prophète à l'oubette, c'est marqué que chez Atanikolim, des roues. Maintenant, vous avez compris que savoir,
ouais, c'est, savoir, c'est pas une connaissance. Parce que là, on a la connaissance. Savoir, c'est en temps réel. C'est qu'en temps réel, au moment où tu es en train de prier, d'ailleurs, il y en a même qui pensent que ça fait partie du gouffre à Tfila, les stépeleurs, ouais, que si vraiment, au moment où tu pries, tu n'es pas conscient que tu es devant Hachem, c'est possible parmi là vous-même. Bah oui, parce que c'est. Sinon, en quoi tu pries Dieu? Bah, je suis en train de faire la prière. Voilà, j'ai pris le livre, je joue à la Amida et. Maintenant, je pense à autre chose. J'ai carré la voiture et comment faire pour le petit, et le chido qui n'a pas marché. Mais t'as pas pris encore pour l'instant. Mais si, je suis en train de dire l'Amida. Non, tu dis l'Amida, c'est bien de dire l'Amida. Non, l'Amida, elle n'existe que dans la Kavana. Sans la Kavana, c'est pas une Amida. C'est rien, c'est vraiment une Amida, c'est-à-dire que tu t'es tenu debout. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois être conscient au moment que tu es en train de prier. Que tu es devant Hachem. Maintenant, tu imagines maintenant le Yud qui est marqué en lettres d'or, gravé en relief de 22 mètres de haut. Ouais, ou tu imagines une lumière très très puissante que tu n'arrives même pas à regarder, tu baisses les yeux, c'est le soleil, il est venu devant la fenêtre. Pas à 33 milliards de kilomètres. Il est devant comme ça, tu fais comme ça. Parce que tu peux pas regarder Hachem. C'est trop fort. Chacun, il va trouver un truc pour être mécaïen, le pasuk Shiviti Hachem Ineglitamid. Bah alors, pendant que tu es dans cette conscience de cette gêne de la lumière, ouais, tu ne peux pas penser à autre chose parce que tu es occupé à la gêne de la lumière. Alors, au lieu d'être occupé à la gêne de la lumière, tu peux être occupé à penser que c'est Hachem qui détient la solution. Tu peux être occupé à ça aussi. Ça va? C'est-à-dire que, est-ce que tu vas faire, est-ce que la prière, c'est un exercice de concentration ou est-ce que la prière, c'est une expérience de conviction. Parce que Rav Dessler, il dit, mais de toute façon, la prière, c'est la mitzvah la plus simple et la plus compliquée. Bah oui, c'est très simple, parce que tu lis le texte. Qu'est-ce que tu sais lire, non? Ah bah tu lis le texte et tu rentres chez toi. Et de l'autre côté, c'est très compliqué, pourquoi? Parce que c'est le plus haut niveau de l'Emouna. Parce que c'est de deux choses l'une. Ou tu parles à Dieu, ou tu parles au mur. Alors, je vous dis la vérité, des gens qui depuis des années, trois fois par jour, ils parlent au mur, il faut qu'ils consultent. Il faut qu'ils aillent voir un psychiatre rapidement. Trois fois par jour, tu parles au mur. Attends, tu dis, mais je parle pas au mur, attends, 5 ans ici, là, je parle au mur. Je suis un gracchi depuis 20 ans, je parle au mur. Mais si à chaque fois que tu commences la mida, ta tête elle part, et tu penses à autre chose. Donc les mots, tu ne t'adresses pas à Dieu, parce que tu t'adresses à qui tu penses. Et comme tu ne penses pas à Dieu, tu parles au mur. Maintenant, quand tu parles au mur trois fois par jour, il faut réfléchir. Ah, tu dis, mais là j'avais un souci, là je n'arrivais pas à me concentrer, là j'avais un moment, là j'ai l'angoisse parce que je me suis rendu compte que j'avais envie d'aller aux toilettes, alors je me demandais, est-ce que j'ai le droit de prier, je n'ai pas le droit de prier, mais je continue à prier parce que j'ai commencé la midah, donc j'ai peur de brachar les batala. Mais pendant que tu es en train de penser, est-ce que tu dois prier ou pas prier, pendant ce temps-là, tu ne pries pas. Comme je lui ai raconté un million de fois, les gens ils viennent, ils me disent, mais chérie, qu'est-ce que je dois faire? Mon fils, il ne prie pas. Je dis, mais comment tu sais? Je dis, mais je vois qu'il ne prie pas. Je dis, mais comment tu vois qu'il ne prie pas parce que tu pries? Il m'a dit, mais non, je ne peux pas prier parce que je regarde qu'il ne prie pas. Maintenant, lui, il ne va pas prier puisqu'il voit que tu ne pries pas. Elle dit, mais là, je suis obligé, j'ai une obligation de prier, je dois l'éduquer. Donc moi, je le regarde, je vois qu'il ne prie pas. Lui, il lève les yeux, il voit que je ne prie pas. Alors, quand il voit que tu ne pries pas, il ne prie pas. Elle dit, qu'est-ce que je dois faire? Ben, tu dois prier. Ah, mais comment je vais savoir s'il prie? Mais c'est pas ton problème. Là, il va lever la tête une fois, il va voir que tu pries. Une deuxième fois, il va voir que tu pries. Une troisième fois, il va voir que tu pries. À la fin, il va dire, ah, ben, alors on est là pour prier. Alors, il va prier. Mais si à chaque fois qu'il lève la tête, il voit que tu ne pries pas, pourquoi il va prier? Je sais ce que tu dis. Ah, mais moi, je n'ai pas confiance. Hein. Et s'il ne prie pas? Mais tu sais pourquoi tu n'as pas confiance qu'il ne prie pas? Parce que toi aussi, tu ne pries pas. Même quand tu pries pas. D'ailleurs, il faut te faire prier pour prier.
tu te fais prier. Ah, c'est une expression en français. Ah, tu sais, il s'est fait prier. Hein. Tu t'es fait prier. C'est que tu t'es fait prier. Moi, les Français, non? Oui? Tu t'es fait prier. Non, c'est pas ce que vous croyez. Parce que j'ai une tête de brève. Non, tu te fais prier. C'est la Gemara qui dit que un Adam Nitsum, mais Elium Tevila. C'est quoi Elium Tevila? Alors, Rashi, il explique là-bas. C'est que quelqu'un, il prie, mais en même temps qu'il prie, il se regarde pour voir s'il prie bien. Donc, c'est bien, non? Genre, il se fait un petit rôle d'acteur, il se fait un casting, il vient chez le bon Dieu, il... C'est bien là? Je rajoute un peu, je rajoute. Là, c'est bien là? Rajoute un peu. Tu peux rajouter encore un peu? Un tout petit peu alors. Tu vois ce qu'il fait lui? Ça s'appelle Ayoun Tifila. C'est la grande, non? Il y a deux marottes. Bon, bon, bon. Ouais. Il y a Tosfot aussi qui explique là-bas. C'est ça Ayoun Tifila! Mais oui ou non? C'est que lui-même, en même temps qu'il prie, il se regarde prier. Tu dis, mais. Je prie! Non, tu pries pas! Tu joues le rôle de l'acteur qui prie.
Même un deuil, tu lui mets un truc, tu sais, tu lui fais la prière, il a vu des juifs prier.
Donc le problème, c'est que quand toi tu pries, est-ce que tu es en train de prier ou est-ce que tu es en train de te faire prier? Tu te fais prier, donc c'est pas une blague. Tu te fais prier, au lieu de prier, tu te fais prier. Tu dis, mais de toute façon, toutes les mitzvot, je me fais mettre les tefillines. Ouais? Je me fais faire le Berkat Amazon. Non! Parce que quand tu as bien mangé et tu es content d'avoir mangé et tu dis Odoula Donai Kitov Kilanam Hazo que j'ai bien mangé, et ben là, tu fais pas le Berkat Amazon parce que tu es obligé. Tu fais le Berkat Amazon parce que tu veux dire merci à Hachem. Ouais? Et quand tu as une bonne raison de prier parce que tu as un problème et tu veux prier ou parce que tu veux dire merci à Hachem et prier et tu veux offrir ta prière à Dieu comme tu lui offres un corban, ouais? Donc c'est pas parce que c'est l'heure et parce que c'est le moment. Ah, tu viens, Non, là tu te fais prier là. Mais tu veux prier. C'est pour la prière. C'est fort. Toujours je donne cette histoire. Tu arrives au chalet. Tu vas en vignale à 7h. D'accord? Tu sors à 8h moins quart. T'as la lumière des au chalet. T'es frais. T'es beau. T'es bien. T'as déjà fait. Des brachot avec la kavana, tu as fait l'Iris Morim avec la Avout, avec l'enthousiasme. Tu as fait le Kratchema avec la Tsemekabel Ol Marcou Shamaim. Tu as fait le Yotzer et tu as fait Akaratatov. Après, c'est-à-dire Emediati. Après, tu as fait l'Amida avec la kavana. Après, tu as répondu à tous les Kaddish. Tu n'as pas dit un mot pendant toute l'Amida. Tu étais debout sur chaque mot de la Khazara. Tu es arrivé jusqu'à Alemin Shabbat à 100%, mais tu sors, tu vas lever un immeuble. Et si tu te réveilles après le Kratchema, après l'Azman, après tu dis, c'est une heure après, est-ce que je peux encore faire des brachot? Moi je ne fais pas des brachot. Moi je fais comme le Kratchema, Zekher le Khorban. D'accord? Après la Hamida, j'ai l'angoisse. Mais il n'y a pas mignon. Oh, je le fais là-bas dans la machine, ou là dans le garage, ou derrière le frigo. Tu sors, il est 11h du matin. Tu dis, dommage, je ne suis pas mort hier. Dommage. C'est une journée perdue. Ça, c'est une fois par an. C'est tous les jours. Donc, tu vois la force qu'il y a dans la prière. Comment tu peux te nourrir. Et dans tout, c'est pareil. Tu vas passer Shabbat. Tu vas passer Shabbat avec ta femme. Passe un Shabbat. Passe un Shabbat. Passe un Shabbat. Sois avec eux. Fais des bartoras. Dis-leur que tu les aimes. Prends ton fils à part. Fais une déclaration à ta femme. Sois sympathique le soir. Fais un peu des préliminaires. Ne fais pas ça comme un animal. D'accord? Fais un bon Shabbat. Fais un bon Shabbat. Et bien ce Shabbat-là, il te donne la force pour toute la semaine. Fais une bonne discussion. Va voir ton père, passe un moment avec lui, dis-lui que tu l'aimes, dis-lui combien tu es content, dis-lui que tu es proche de lui, dis-lui que tu as prié pour lui. Fais-le. Ça te donne des forces. Non, je dis. C'est qui me l'aime, on est obligé d'aller. Bon, ça va, papa, voilà, j'ai fait ce que t'as dit pour la voiture, c'est bon, c'est réglé. L'électricité, je m'en occupe. Hein. Allez, papa, il faut que j'y aille. Alors lui, il te regarde, il dit, pourquoi tu es venu, mon fils? Il est sincère. Il veut dire, pourquoi tu es venu? Ça sert à rien. De toute façon, tu es venu pour partir. Fallait dire, je peux pas venir, c'est plus facile pour moi. Non, quand tu es là, tu es là. Ça s'appelle en français, Arosek Bamitzvah, Pato Minamitzvah. Quand tu es avec ton père, le monde entier, il s'arrête. Quand tu es avec ta femme, Mitzvah Minatora.
Quand tu es avec tes enfants, mitzvah mina Torah. Quand tu es en train de travailler, honnêtement, selon la Macha, mitzvah mina Torah. Quand tu es en train d'étudier, mitzvah mina Torah. Vous savez, Rabbi Elchanan Wasserman, quand il étudiait, son secrétaire, il a dit, il y a quelqu'un qui a besoin de vous parler. Il a dit, je suis en train d'étudier. Non, mais il a insisté. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Elchanan? Non? Il a dit, dites-lui que je suis mort. Vous avez compris, non? Il a dit, dites-lui que je suis mort. Maintenant, l'autre, il va sortir, il va dire, Rabbi Elchanan, il est mort, mais David, elle est foutue. C'est comme si on te dit, Rabbi Elchanan, il est mort. C'est le gars de l'Ador. Il dit, dites-lui que je suis mort. Là, je suis en train d'étudier. Faut-il un problème? Eh bien, il va attendre la fin de CDR. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que, en réalité, il n'a pas dit, c'est pas un jeu de mots. Parce que, elle, la Torah, c'est la demi-chemimitat, moi, elle est là. Donc, quand il est dans l'étude, il est mort. Le reste, c'est mort pour lui. C'est mort. Ouais. Ça s'appelle péter à 100%. Maintenant, quand tu prends cette kavana là, cette force, cette implication, ce 100% dans la prière, ça s'appelle Olorando Bechol Rafael. C'est ça, vous le servirez pour le servir de tout votre cœur. Alors, si c'est ça, avec Mara en haut, elle a dit, Rabbi Eliezer, elle a dit, Kishatel. Juste en bas, un autre sipour, pareil, c'est Rabbi Yochanan, il est en train de mourir, il reçoit ses élèves. Et là-bas, il leur demande, les élèves lui demandent, donne-nous un chemin pour aller au Lamaba. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il a dit, Chete'e more shamaim alechem ke more basar madame. Que la crainte d'Hachem, du ciel, elle soit sur vous comme la crainte des hommes. Alors eux, c'est les élèves de Rabbi Hanan. C'est-à-dire que le plus nul qui faisait revivre les morts. D'accord? C'est-à-dire qu'ils connaissaient toute la Torah entière. Et quand il leur dit un conseil pour le Hamama, qu'elle soit la crainte du ciel, comme la crainte des hommes. Mais la crainte des hommes, c'est quoi? T'as peur que le gars t'insulte, t'as peur qu'il te frappe. Mais qu'est-ce que tu compares la crainte de Dieu avec la crainte des hommes? J'étais mouré chamaï, ma lechem qui est mouré, c'est bizarre. Alors ils ont dit, Adkan! Ça veut dire, c'est tellement bas, ça veut dire tellement tu penses qu'on est nul que tu nous donnes un conseil aussi bidon. Ouais. Il a répondu, Tedeu, sachez. Ouais. Qui chez Adam, on va te savoir, Avera. Lorsqu'un homme veut faire une Avera, Omer, il dit, Shema Yareni Adam, de peur qu'un homme va me voir. Ça va? C'est quoi le sens de cette Gemara? C'est que, pourquoi il a comparé la crainte de l'homme avec la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est de la spiritualité. La crainte de l'homme, c'est de la psychologie, clairement. C'est de la conscience de l'autre. Dans la vérité, en résumé, c'est que, de la même manière que tu n'as aucun doute sur la réalité de l'existence de l'autre, et que l'autre, pour toi, il est concrètement ici, comme cette barre de fer, elle est là, et bien le jour où tu donneras à Dieu une dimension aussi concrète que la conscience que tu as de l'autre, ouais, tu n'auras plus de problème avec l'avion. Parce que pourquoi on fout? Pourquoi on fout? Pas parce qu'on a oublié que Dieu était là, ou parce qu'on n'était pas vraiment convaincu qu'il est là, ou parce que même s'il est là, on pense qu'il ne regarde pas, ou alors on pense que même s'il regarde, ça n'intéresse pas, ou même, on regarde, même si ça l'intéresse, on sera puni plus tard. C'est ça ton problème. En vérité, c'est un problème de conscience, un problème de concret. Maintenant, si Hachem n'est pas concret pour toi, alors que l'autre, il est concret, ça veut dire que tu as un problème de différence dans la perception de la réalité de Dieu. Donc, Rabbi Yochanan, il leur a dit, si vous voulez aller au monde futur, ouais, moré shamaim alechem, ke moré basar adam. Et ça, c'est, en fait, c'est un très haut niveau. Parce que pour les chachamim, toujours, je raconte cette histoire, qu'un jour, Baba Saleh, un gars, il est venu le voir. Il a dit, c'est Racha, je fais dire Béroth. Bon, Sali s'est approché de lui, il a dit, ah, attends, il ne tient pas peur. L'autre, il a dit, mais nous, il a dit quoi? Mais nous. C'est que Baba Sali, il avait Hachem à côté de lui, comme si son grand-père était en train de le regarder. C'est une tzioute. C'est pas une mouhaniout, comme ça. Des yanim, de la Kabbalah, des yichou, des shemot, de l'énergie, de trucs, de la philosophie. Non, concret, il est là, comme ça, il est là. C'est ça, Shemiti Hashem Lenegditamid. C'est concret. Et toute la vie, en vérité, c'est ça. Comme quand t'es marié, c'est concret. Par exemple, le cabot que t'as pour ta femme, c'est concret. C'est pas ce qu'il... Ah, mais quand elle m'énerve, j'oublie tout, je l'insulte. Non.
Toi, tu penses les accouchements, la gentillesse, la douceur, la proximité, la disponibilité, les trois repas, la lessive, les chemises, le ménage, tu penses à tout. Et quand on te montre les nerfs, tu dis, je peux pas insulter une femme qui me fait tout ça. Ton mari, c'est pareil. Donc, quand tu donnes une dimension concrète au respect, il ne peut pas y avoir un manque de respect. Parce qu'il y a le respect. Quand la boîte, elle est remplie de respect, où tu mets le non-respect? Par contre, s'il vient le non-respect, c'est que tu n'as pas mis le respect dedans. Après, tu dis, ah, excuse-moi, ça m'a échappé. J'ai dit, c'est bon là, mais je ne pensais pas. Pourquoi ça ne t'échappe jamais avec ta mère?
Vraiment, c'est bon.
On verra si c'est vraiment le bon moment. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est que tu vois, tu as fabriqué du respect concret. D'accord? Et tu as fabriqué de l'honnêteté concrète. C'est pas que tu es honnête selon la somme. À partir d'un million d'euros, c'est une mitzvah de voler. Non, un euro ou un million d'euros, tu ne voles pas. Parce que pour toi, le gezel, c'est un issur concret. C'est un interdit concret. Ouais. Pour ça, je vous avais dit ce jeu de mots. Que le concret, c'est ce concret. Maintenant, si tu n'as pas créé le concret, il n'y a pas de concret. C'est ça que les gens te disent. Vous savez, c'est pas très concret, j'ai du mal. C'est comme les gens quand tu leur dis quelque chose, ils disent, bon, tu sais, est-ce que tu l'aimes? Bon, mais quelque part, ou alors tu dis, et d'ailleurs, par contre, parlez français. Je ne sais pas si ça existe en italien. On dit d'ailleurs? D'ailleurs? Comment? Voilà. Mais c'est bizarre parce qu'on est ici et tu me dis, et d'ailleurs, donc tu me parles d'ailleurs. Ouais. Et tu dis, bon, mais quelque part, je pense qu'il a tort. Ou je pense quelque part qu'il a raison. Alors, si tu penses que quelque part il a raison, viens, on va dans ce quelque part et on va s'occuper du cas où il a raison. Parce que là, on est ici et tu me parles de quelque part. Est-ce que tu lui dois l'argent? Quelque part, bon, effectivement, il a travaillé. Bon, on n'était pas d'accord sur le devis, mais, il a travaillé, il n'a pas travaillé. Oui, il a travaillé. Donc, tu dois le payer. Oh oui, quelque part, je dois le payer. Mais d'un autre côté, il m'a mal parlé. Tu dois le payer. Il est mal poli, mais tu dois le payer. Il a travaillé, tu dois le payer. Hein, il m'a téléphoné comme ça. Il m'a dit à la MCR, est-ce que je dois payer le chômage parce qu'on a changé les conditions? Les conditions, c'est pour l'avenir. Mais le passé, il a fait. Il a travaillé pendant un mois. Paye-le. Ah, mais je suis obligé. Tu n'es pas obligé d'aller aux toilettes aussi. Tu vas faire juste une occlusion intestinale et tu vas mourir. Ça s'appelle le flux intestinal. Eh bien, il y a un flux intestinal, il y a un flux relationnel, il y a un flux des obligations, il y a un flux de respiration. Alors respire, si j'arrête de respirer, ben, tu vas mourir. Ça s'appelle la fluidité existentielle. Le monde, il fonctionne. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu rends concret. Tu rends concret ta Yirat Shamayim. C'est ce qu'il a dit Rabbi Yohanan. On ne veut pas la philosophie. On ne veut même pas la Yirat Shamayim. Des choncines, des rabbaïsel, des rabbaïsel, des rabbaïsel, des rabbaïsel. Et après, quand il y a un conflit avec le voisin, tu sors des gros mots. Moi, j'ai un copain, moi, il est Dayan, il m'a dit rien. Je vois des rabbaïsel, ils s'insultent pour un mètre de plus. Il faut voir les gros mots. Il m'a dit, ah, grâce à la Koba, Shekha, à la Frak, Shekha. Je dis, sauf, c'est élève Shekel. Pour 1000 Shekel. Quoi? Ce fils de. Abnebrak, hein, je sais pas à Tel Aviv comment ça se passe. Mais Abnebrak. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore rendu concret que. Alors, je ne sais pas, il ne parle pas comme ça. Tu n'as pas rendu concret que ce genre d'argent, tu ne le prends pas pour les Shiva. Tu n'as pas rendu concret que cette cache-route, c'est pas sérieux. Je comprends, c'est un donateur, j'ai honte de lui dire non. Quoi, tu ne manges pas cachère parce qu'il t'a pas le nom. Donc, ça veut dire que la cache-route, c'est pas concret encore pour toi. Je vois des gens qui me disent à moi, ouais, ça, mais Dine, vous savez, Ravoyeur Barf de là-bas et Ravoyeur de là-bas. Et moi, je vais voir Paris, manger chez les gens, je dis, mais bon, même une cacahuète, tu ne peux pas la manger. Même le kili, il n'est pas trempé. Je dis, mais moi, je ne sais même pas comment il fait pour te donner. Parce que s'il voit qu'aujourd'hui, devant lui, tu fais un très well, qu'est-ce qu'il va penser que tu fais avec la croix? Tu dois lui dire, Mechila, je ne peux pas manger. Alors, si ça te vexe, ne fais pas le bon, mais moi, sache que je ne peux pas manger. Je peux faire des choses de Rabbanan, je peux essayer de faire des trucs, je peux faire des carottes à l'Eliot, je vais trouver des dinims, des patentes. Mais quand c'est à sourd, je peux en manger. Je peux manger un truc, c'est à sourd. La Goya, elle cuisine. Maintenant, tu me donnes à manger. Celle qui allume le feu, celle qui cuisine, tu me donnes à manger, tu veux que je mange de la viande, que la Goya la cuit. C'est des choux de goy. C'est toute la vaisselle, elle est à ref. Ah, mais je comprends, il est pas au courant, le gars. Mais il est pas au courant, mais c'est toi qui manges. Fais tomber l'assiette, je sais pas. Oh, oh là 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 là. On va vous resservir. Oh là 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 là. Oh là. Tu te dis, je peux pas manger, mais qui là? Au contraire, tu lui apprends la rafra comme ça, tu lui mets si longtemps, tu le sauves. Tu le sauves parce que ça fait des années qu'il mange ta ref, le pauvre. Il sait pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si toi, tu es dans une épreuve de cache-route par rapport à la Zdaka, c'est que tu as un problème avec la cache-route. Si toi, tu es dans une épreuve de regarder la femme, c'est que tu as un problème avec la Kedusha. Si toi, tu parles d'intimité avec ta secrétaire et que tu parles pas comme ça avec ta femme, c'est que tu as un problème avec ta femme. C'est que chaque chose, tu as besoin de lui donner cette dimension concrète. C'est ça ce qu'il a dit. Que tu donnes à la religion une dimension concrète. Ça va? Maintenant, quel rapport entre cette Gemara de Rabbi Yohanan qui a dit Chete Mori Shamayim Alechem Kemori Masar Adam et la Gemara de Rabbi Lézer qui a dit Kishet Amit Palelim Déroulim Listani Atemomdim? Parce que qu'est-ce qu'ils font les deux dans le même Aroud? Pas tu veux dire parce que les deux ils étaient en train de mourir. Non! C'est pour dire que de la même manière que le principe que toi tu dois avoir que Hachem il est concrètement devant toi au moment de la prière, et bien ça c'est une notion en fait de Yirat Shamayim que tu as concrètement tous les jours, toute la journée. Maintenant, est-ce que c'est la Yirat Shamayim que tu as tous les jours qui te permet d'avoir la dimension concrète de la prière? Ou est-ce que c'est la dimension concrète de la prière qui te permet d'avoir une dimension concrète de Dieu dans la vie de tous les jours? Les deux sont... Tu peux lire les deux. Tu peux lire les deux. Ouais. C'est comme moi, les jeunes fratamiques, je leur dis, entraîne-toi à respecter ton conjoint quand il t'énerve. Parce que quand il t'énerve pas, c'est facile. Les gens, ils font le contraire. Ils respectent quand ça va bien, et quand ça va mal, ils disent, tu sais, elle m'a énervé, elle m'a remis en cause, elle m'a vexé devant les copains, c'est pour ça que ça s'est mal passé. Mais non, tu dois aller le contraire. Prends une référence quand c'est dur. Comme ça, après, quand c'est facile, ça va être normal. Alors que toi, tu prends une référence que tu respectes, sauf dans les cas où. Mais c'est sauf dans les cas qu'on a besoin de toi. C'est comme à l'école, des fois, elle te dit, écoutez, votre fils, on n'arrive pas, il est trop difficile. Tu dis, mais pourquoi vous voulez vous occuper que des enfants qui n'ont pas besoin d'école? Si on ne les met pas à l'école, on les garde nous. Pourquoi on vous les donne vous? Parce que vous, vous êtes pédagogique, parce que vous, vous allez consacrer, parce que vous, vous allez mettre une attention particulière, parce que vous, vous allez accompagner l'enfant. C'est votre métier. Moi, au travail, je ne vais pas dire au prof d'école, viens me régler mon problème de fournisseur. Alors pourquoi toi, tu veux que moi je fasse ton travail de méfaner dans l'école? Par ça, je l'écris de la maison. Mais il passe 8 heures par jour avec toi. Fais un petit travail avec lui. Il manque de confiance. Fais-lui des compliments. Il a un problème de discipline. Dis-lui de s'asseoir. Ah, tu dis, ah non, moi, ce genre d'enfant, on ne gère pas ça. On ne s'occupe pas des enfants qui sont compliqués. Et tu n'as pas compris. Donc ça veut dire que tu ne t'occupes que des enfants qui n'ont pas besoin de l'école. C'est comme si tu prends une assurance pour ton photocopieur. Il dit, nous n'assurons que quand il marche. Quand il ne marche pas, ça ne rentre pas dans le cadre de l'assurance. Tu dis, oh, monsieur, j'ai payé une assurance. Alors, qu'est-ce que je fais quand il ne marche pas? Eh bien, quand ça ne marche pas, c'est entièrement à vos frais. Ben alors, pourquoi je paye une assurance? Ah, je ne sais pas, parce que c'est ça le contrat. Voilà. Tu dis, mais il est fou celui-là. Ben, c'est pareil. Toi, tu dis à ta femme, je t'aimerai pour toujours, sauf quand tu m'énerves. Et toi, tu dis, je te ferai mon mari, je serai disponible pour toi, sauf quand je suis pas bien. Mais non, mais même quand tu n'es pas bien, le shalom bayit, ça continue. Et même quand tu es fatigué, le shalom bayit, ça continue. Et même quand ça ne va pas exactement comme tu voudrais, le shalom, ça continue. Et bien, Hachem, c'est pareil. Des fois, tu comprends ce qu'il veut, des fois, tu ne comprends pas. Des fois, tu es choqué, et des fois, tu es heureux. Et des fois, tu as envie de t'étouffer. Voilà, vendredi matin. Jeudi, je suis parti à Jérusalem, enfin en Israël, et il y avait un gars qui me voit, Rabbi Chetrit, on était dans le même avion. Il m'a dit, vous savez, Rabbi Chetrit, l'Oalechem, quand à la naissance de mon deuxième garçon, il n'avait que deux enfants, j'ai appris que le premier avait une leucémie. Ils ont diagnostiqué la leucémie le jour de la naissance du deuxième. Et c'était le jour du Tisha B'Av. Mais je me suis évanoui. Ils m'ont dit ça, je suis tombé par terre. Il dit après, bah, Hachem, on s'est renforcé, on a avancé avec ma femme et tout ça. Elle a pris sur elle la Sanyout, moi j'ai fixé des heures de Limout, on a pas au Hachem. Et l'enfant, il a 7 ans aujourd'hui, il n'a plus rien. les médecins disent c'est un miracle, pour Hachem, la leucémie, elle a entièrement disparu, un miracle. D'accord? Et moi, pendant qu'il parlait, je me disais, mais qu'est-ce que j'aurais fait, moi? Est-ce que j'aurais eu cette force? Au lieu de dire, quoi, c'est ça? Le bon Dieu m'envoie ça? Tu sais quoi, la religion, c'est les filles, la cache-côte, le chaval? Rien. Non, au contraire, le gars qui est sorti fort.
Oui?
Fort! Et après, j'arrive en Israël, et quelqu'un vient me voir à la fin de la cour, il me dit, voilà, je voulais vous dire que quelqu'un m'a dit de venir vous parler parce que j'ai un problème avec mon fils, c'est que sa maman, elle est partie de la maladie quand elle avait 36 ans, et le fils, il est en révolte, il ne veut plus rien faire de la religion. Je dis, regarde, celui-là, son fils, il a une leucémie. Ouais, il se bat, et il garde un lien avec Hachem. Celui-là, il perd sa mère, d'accord? Il dit, Dieu n'existe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu dis Via Afta et Hachem, Elokecha, Bechon Nevadecha, Ufron Hachecha, Ufron Meodecha, il faudra bien qu'un jour tu commences à l'accomplir. Parce que si tu dis j'aime Dieu quand il me fait plaisir, quand il est d'accord avec moi, quand il me fait gagner l'auto, quand il me vend l'appartement, quand il me trouve le bon chinois pour ma fille, ah, c'est comme ça que tu l'aimes. Et quand ça ne va pas, tu ne l'aimes pas.
Donc en c'est fait, tu l'aimes pas. C'est pas que ça ne va pas être un choc dans ma vie.
Non, mais d'abord le choc, il arrive à la personne qui peut le supporter. D'accord? La preuve, il est sorti fort de ça. Donc nous, on ne peut pas regarder le choc de l'autre. Parce que le chamelier connaît ses chameaux. Ouais. Il donne à chacun ce qu'il peut porter. Là j'ai un monsieur. Ce monsieur-là, ce matin, il m'a amené son fils. J'ai parlé avec lui pendant 1h15. Au Hachem, c'est bien nettoyer la tête. Je lui ai expliqué que c'était des bêtises et tout ça. Bon, je fais tout un programme. Mais le monsieur, il m'a donné un petit livret que sa femme, qui est Nifteret, elle a écrit. Pendant 3 ans, elle a écrit son cancer. Elle a écrit ses sentiments, elle a écrit comment elle parlait à Hachem. Maintenant, je l'ai lu dans la poche, je pleurais. Je ne voulais pas tout lire, je lisais des morceaux comme ça. Je dis, comment la personne, une limouna? Mais tu tombes par terre avec la chimio, avec la souffrance, avec la perte de mémoire, avec la perte des cheveux. Ouais. Et nous, on rate le bus, ah, Dieu il n'existe pas, on rate le permis, où il était ce jour-là. Pourquoi c'est là? Ouais. Pourquoi? C'est-à-dire que c'est un décapsuleur. C'est un décapsuleur de Emouna. L'épreuve, c'est un décapsuleur de Emouna. Comment tu connais la résistance? Tu tires, il se casse. Tu tires, il stoppe. Tu tires, il ne bouge pas. Comment tu connais la résistance? Malheureusement, il n'y a que dans l'épreuve que la résistance est bien. Alors, quand on dit que la mitzvah minatora de prier, elle est béchatatrak, si on dit que la prière, c'est un niveau de dvekut b'Hachem, c'est-à-dire c'est un niveau de contact à 100% avec Hachem, malheureusement, il y a des gens qui ne trouveront le contact avec Hachem que dans les malheurs. Quand est-ce que tu vas vraiment prier? Quand ça va pas. Et il y en a d'autres, c'est le contraire. Eux, pour eux, la prière, c'est le korban todah. C'est-à-dire qu'ils ne pourront que dire merci. Ils savent pas dire ça va quand ça va pas. Oui. Donc eux, ils vont voir le bonheur qu'Hachem leur envoie, et ça leur donne une itlavot de reconnaissance, et ils vont prier Hachem. Et l'autre, malheureusement, il a une carapace, il a une croûte tellement épaisse, oui, une croûte de croyance ou une croûte d'habitude qui fait qu'il n'arrive pas à prier. Il n'y a que quand on fait sauter la croûte qu'il prend la darba, là d'un seul coup il ouvre son cœur. Cette logique là, cette logique c'est quoi? C'est qu'en fait, parce que le moment est ouvri, le Rambam dit que Kol Akesher chez Yeshlanou, Imakadosh Boko, Zerag Besechet. Le lien qu'on a avec Dieu, c'est que par la tête. D'accord? On ne peut pas le voir, on ne peut pas lui serrer la main, on ne peut pas manger au restaurant avec lui. Ouais, le seul lien, c'est dans la tête. Il dit à Eva Kesher, Adavouk, Yachon, Liyot, Razak, Razak, Meod. Ce lien peut être très, très puissant. Ou alors, il peut doucement s'éteindre jusqu'à ce qu'il n'y a plus rien. Comme des fois, tu as vu des gens, tu dis, c'est quoi les dames? Et là, tu les vois en short. Qu'est-ce qui se passe? Oh, tu sais. C'était difficile, c'était trop, j'avais pris sur moi, voilà. Moi, c'est des choses que j'arrive pas à comprendre. Parce que,
tu sais comment un couple il s'effondre, et tu sais comment une relation avec un enfant elle s'éteint, et tu sais pour comment une rancune elle se renforce, et tu sais comment la religion elle baisse, parce que tu travailles pas. Tu travailles ton couple, tu vas aimer de plus en plus l'autre. Tu travailles ta religion, tu vas aimer de plus en plus ta gêne. Donc, quand tu refuses de travailler parce que tu penses que les choses sont acquises ou parce que tu fais partie d'un milieu protégé, c'est là que ça devient dangereux. Ça veut dire que la relation avec Hachem, ouais, c'est comme la relation avec une femme. Tout le temps, il faut des attentions, de la gentillesse, de la douceur, du dialogue, de la disponibilité, de la proximité. Et bien, c'est pareil. Et si tu veux dire quel rapport, ça c'est un homme, ça c'est avec Hachem. Mais Vayomer Hachem et Avraham, Vayomer, Inemi. Ouais. Vayomer Hachem et Yaakov. Vayomer Yaakov, Inemi. C'est de quoi Inemi? Pour traduire vous Inemi. Me voici. On appelle ça en français la disponibilité. Ani Mouchan. Tu m'appelles 4h du matin, Ani Mouchan. Eh bien, c'est quoi? C'est quoi l'amour dans un couple? De vous à moi. C'est quoi? L'argent? La sexualité? Non. L'amour dans un couple, c'est la disponibilité. Est-ce que tu es disponible? Pour l'amour, j'ai besoin de te parler. Ani Mouchan. Rendu bureau, je ne suis pas bien. Ani Mouchan. D'accord? Là, je me suis stressé avec un client, je t'en prie, allume-moi une veilleuse. D'accord, mon amour, j'arrête tout de suite la manicure, je m'occupe, j'allume la veilleuse. Ou non, mais encore, je suis en plein de me faire la manicure, tu me saoules avec tes clients. Tu vois, t'es pas disponible. C'est ça le coup. Moi, j'ai envie de danser, t'as pas envie de danser. Au moment où tu veux danser, je danse. Ah, mais c'est plus de notre âge. Oh, on a l'air de quoi? Comme faire comme des brèles. Tu vois, c'est ça. T'es pas disponible. Eh bien, comme t'es disponible avec ton conjoint, t'es disponible avec tes enfants, ton fils t'appelle parce qu'il a besoin de toi, je suis là mon fils. C'est mon fils. Ah ben tu te débrouilles, t'es grand. T'es pas disponible. Et bien avec Hachem aussi, il faut être disponible. Ouais. Pourquoi? Ça s'appelle rêver d'Hachem. C'est rêver d'Hachem. Ben donc tu crois que la disponibilité, c'est que t'es pas disponible et d'un seul coup t'es disponible? Non! C'est que tu travailles ta disponibilité. Tu veux ou non? Donc quand tu fais une mitzvah, c'est un travail de disponibilité. Et quand tu fais la prière, c'est un travail de disponibilité. Et quand tu es allongé dans un lit et tu n'as rien à faire, et ben tu réfléchis, tu dis Dieu est un, tu fais une mitzvah. Après tu dis Elohim Acherim, tu fais une mitzvah. Après tu dis si on me propose de Kiddush Hashem, je me jette dans le feu, tu fais une mitzvah. Une mitzvah allongée dans ton lit. Parce que pourquoi tu vas rester stable comme ça? Alors que si Hachem, il t'a donné 73 ans, 6 mois, 12 jours, 6 heures et 21 minutes et 13 secondes, parce que c'est calculé, ça veut dire que chaque seconde, tu peux l'utiliser pour te rapprocher d'Hachem. Et si tu dis, non, c'est la prière, là c'est le travail, là c'est l'intimité, franchement, je pense pas au bon Dieu, là c'est la table, là, quand je mange, hein, il faut pas commencer avec les rabbins, hein. Même l'étude de la Torah, c'est de la philosophie. Et Baba Kama, c'est des mathématiques. Alors, quand est-ce que tu penses au bon Dieu? Et quand est-ce que tu te rapproches du bon Dieu? Et si le bon Dieu, il t'a calculé un temps de vie, ça veut dire que c'est le temps nécessaire. C'est que par rapport à ta Neshama, parce que le Arizal, il dit qu'il y a autant d'étincelles dans la Neshama que de jours à vivre, et chaque étincelle, elle a besoin d'un tikkun, ça veut dire que tu dois faire le tikkun de chaque étincelle par rapport aux 613 mitzvot que tu as accomplis ce jour-là, puisque tu ne sais pas à quel mitzvah il est le tikkun de cette étincelle-là. Et tu veux dire, non, c'est pas, on ne peut pas être tout le temps, hein, je veux dire, vous savez, on fait la religion quand on peut, quand on a le temps, quand on a... Non, c'est ça la disponibilité, à ta révélation. Maintenant, je vous donne un secret. Quand tu as fabriqué cette disponibilité et que tu as compris que la facette voyante de la disponibilité, c'est la prière, et que tu as cette proximité avec Hachem, d'accord? Donc en fait, tu es tout le temps en prière. C'est ce qu'a dit la Gemara. Amar Abaye, Alvay Sheit Palelu Koloyom. Ce serait bien si un homme, il priait toute la journée. On pourrait rester à prier toute la journée? Tu dis, attends, on n'a pas que ça à faire. Évidemment. Qu'est-ce qu'il y a dans la Mishnah?
les chassidim, les premiers, ils se concentraient une heure avant la prière pour orienter leur cœur vers Hachem. La Gemara dit, ils avaient une heure de préparation avant, ils avaient une heure de prière, et une heure après pour se remettre de la prière. Donc ils avaient 3 heures par prière, ça fait 9 heures. La Gemara elle dit, Melachtan, Ech Nahasid, comment ils travaillaient? Ouais. Ve'et Toratam, Ech Mishtameret, comment elle était gardée? Alors, le Maharsha, il dit, vous avez compris, quelqu'un qui prie 9 heures par jour, quand est-ce qu'il étudie la Torah? Là, il a répondu, il a dit, le Maharsha, il dit, il pouvait pas, ça compte pas pour l'étude des Hidushim. Mais ils avaient une siyata d'Ishmaïa de la Hazara, qu'ils n'avaient pas besoin de faire la Hazara, mais ils retenaient les trucs. Alors qu'un gars normal, il faut qu'il fasse Hazara en 24 heures pour se faire des trucs. Mais eux, ils avaient Ech Mishta, pour ça que la Gemara dit Ech Mishta Meret. Elle dit pas Toratan et Ech Mit Kayemet. Ouais. Ech Mit Lamedet. Il écrit Ech Mishta Meret. Parce que c'est un miracle. Moi, je vois, par exemple, personnellement, qu'avec tous les voyages et tout, j'ai moins de temps pour étudier. Des fois, on pose une question, je me rappelle d'un truc que j'ai fait il y a 15 ans. C'est le bon Dieu qui te donne une siyata d'Ishmaïa que tu te rappelles. Alors que des fois, tu te rappelles pas le Zvar Torah que tu as fait Shabbat. Alors, je vous donne le secret. De la même manière que dans la mémoire, la Torah, elle est dans ta tête. Mais c'est juste l'aller-retour entre ta mémoire interne et ta mémoire externe. Mais si tu es d'Avouk toute la journée avec Hachem, Hachem, il fait le lien. Eh bien, c'est exactement pareil dans tout. Pourquoi? Vous voyez, je suis parti à... J'étais à Natania, jeudi soir. Après, ils m'ont donné un taxi qui m'a accompagné. Il y a un tzadik incroyable. De Bébrac. On commence à parler comme ça. Il dit, Arabe, Bodo Arabe, Alir a été ici. Il a dit, j'ai vu des miracles. Je dis, ah bon? Il m'a dit, j'ai grandi à Gagnavné, à côté de l'Ajdod. Mes parents n'étaient pas religieux. C'est pas religieux. Mais comme mon père, c'était un peu le gabarit de la synagogue, à chaque fois qu'il y avait des gens qui venaient pour ramasser de l'argent, ils venaient chez nous. Et des fois, ils restaient là-bas, ils dormaient là-bas. Je les ai vus. Toute la famille, on n'est pas religieux. Et comme j'ai vu tellement des religieux, un jour, j'ai voulu me marier, j'ai dit, je vais marier avec quelqu'un de religieux. Et moi aussi, je vais être religieux. Il a dit, mon père, il avait un business, il avait un appartement à Bnebrak. Il a dit, je veux cet appartement, je vais à Bnebrak. Il a dit, mon fils, t'es pas adapté à Bnebrak. Il a dit, c'est pas grave, je vais être là-bas avec les rabbins. Comme j'étais toujours avec les rabbins depuis que je suis petit, je vais être avec les rabbins. Il a été à Bnebrak. Il s'est installé à Bnebrak, il a vécu à Bnebrak. Pendant tous ses enfants et ses filles et ses garçons, ils sont dans les chibotes, ils se marient avec des géonimes. Incroyable. Et il est taxi. Il m'a dit, je vous racontais un jour, j'ai voulu marier avec un patron. Un patron au métier. Ma fille, elle voulait un spécial, très très sérieux. On l'a trouvé, mais les beaux-parents, ils ont dit, bon alors, on achète la maison. Et moi, j'ai dit, ok. J'avais pas d'argent. Plus peur. Il a dit, j'ai été voir un gars. Il a dit, voilà, je me fais un prêt de 50 000 $. Il a dit, je vais réfléchir. Il a été voir un autre, tu peux me prêter 50 000 $ pour la porte, pour la maison. Il a dit, je ne sais pas, en ce moment, c'est pas évident. Et encore un autre, personne ne lui a rien dit. Bon, lui, il est Mouna, Chouta de chez Chouta. 3 semaines après, il prend la voiture, qui c'est qui rentre celui-là? Le gars, il rentre, il lui dit, c'est pas revenu me voir pour les 50 000. Il a dit, tu m'as dit, je vais voir, moi j'ai attendu. Il a dit, bon, ok, tiens, voilà ça, voilà les 50 000. D'accord? Il a dit, bon, comment on fait pour le... Il a dit, non, ça c'est mieux, ça va, ça. Regardez. Le deuxième, il le rencontre dans une autre course. Il vient le voir, il lui dit, bon, j'ai préparé pour toi quelque chose, parce que je pour la mitzvah, pour le mariage de ta fille. C'est trouvé avec 80 000 $. Après l'autre, il a encore donné 20 000 $. Il s'est retrouvé avec 110 000 $. Il n'a pas d'argent. Il n'a rien. Ouais. Mais, une dvekout, une pashtout, une emouna, moi, c'est un tamit racham, Hachem, il va me donner. Alors, comment il résonne, lui? D'accord? Toi, tu vas dire 100 000 $, ça veut dire 500 $ par mois, pendant 62 ans. Bon, lui, il dit, ça, alors Hachem, elle veut un tamit racham, elle est prête à donner sa vie pour un tamit racham. Hachem, il va pas donner, il va donner. Ah, il faut une maison. Ça, tu dis, ben non, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de maison. Mais nous, en vérité, quand on dit qu'il n'y a pas de maison, c'est parce qu'on n'a pas la emouna qu'il peut y avoir la maison. Parce que nous, on veut la payer nous-mêmes. Alors, on n'a pas les moyens. Alors, il n'y a pas. Lui, il a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi? J'ai pas. Mais ma fille, elle a besoin. Alors, il faut. Tu vois ça? Ça, c'est une vécu. Ça s'appelle une prière perpétuelle. C'est pas une prière quand t'as besoin. C'est pas une prière à la synagogue. C'est une prière pshuta de l'emouna. Pourquoi? Parce que, vous savez, on dit toujours, il y a la Emouna et le Bitachon. La Emouna, c'est la croyance. Et le Bitachon, il dit le Chazonish, c'est de vivre en fonction de ta croyance. Par exemple, quand tu fermes le Shabbat, ouais, c'est pas seulement que tu es Shomer Shabbat, c'est aussi un acte de Emouna de fermer le Shabbat. Quand tu t'arrêtes pour faire la prière, en plein, tu fais une fois en plein après-midi, c'est un acte de Emouna de dire les clients, ils vont pas appeler pour la mitra. Quand le matin, tu restes une heure, alors que tu peux être à 7 heures au travail pour faire le planning de tous les vendeurs, et tu dis j'arrive à 9h15, parce qu'après la prière, j'étudie 1h15, c'est un acte de Emouna de vécu d'arriver à 9h15 en étudiant la Torah. Donc ça veut dire que le bitachon, donc en fait la logique c'est quoi? C'est que la croyance, c'est de croire en Dieu, mais de prier, c'est un acte de bitachon. Parce que moi je dis, bah, je prends Dieu, je prie pas, mais je prends Dieu. Alors si tu crois en Dieu, prie. Ah non, je peux pas prier, je pas tant. Oui. Maintenant le problème, c'est que comme on est vers Olam HaMaasé, on est dans le monde de l'acte, il dit le Nefesh HaChaim, il n'y a que les Maasim qui amènent des Béros. Les Mahajarot, ça ne suffit pas. C'est pour ça que l'Agma dit que bien que le Icar de la Tfila, c'est la Kavana, mais quand même c'est marqué dans Brachot là-bas, sur Hana, que Rak, c'est Fatea, Naot. Ses lèvres, elles bougent. Il dit le Nefesh HaChaim, pourquoi elle a besoin de bouger les lèvres? Parce que de toute façon, le principal de la Kavana, de la prière, c'est la Kavana. Il répond, parce que comme on est des Olam HaMaasé, le minimum de l'acte, c'est de bouger les lèvres. Un petit peu ou non? C'est comme une énergie, d'accord? C'est comme si, voilà, j'ai fait ça, voilà. J'ai bougé le lèvre, là. J'ai bougé, non? Vous avez vu, j'ai bougé. D'accord. Donc j'ai fait ça. Et si je le regarde, ben, j'arrive pas. Il bouge pas. Il faut que je le bouge. C'est voilà ma base. Bien que pour dire le Hémet, ça aussi c'est une question de niveau. Parce que nous, on est arrivé dans un niveau où on a besoin du Maasé pour faire bouger les choses, le Maasé. Vous savez, Yagmara, peut-être, Yagmara, vous connaissez, quand c'est marqué dans Yagmara, dans Sota, Daftet, en fait, c'est marqué que quand Pharaon, il a demandé aux Juifs de commencer à travailler pour lui, il n'aura pas mis des coups de fouet. Il a dit, on va organiser la corvée du roi. Et c'est un honneur de travailler pour le roi, pour Pharaon. Et tous les Juifs, ils devaient aller travailler dans le chantier pour construire le palais du roi. Alors, qu'est-ce qui est marqué là-bas? L'Agmara a dit qu'il y a des gens, ils n'ont pas voulu venir. Parce qu'ils ont dit, mais on est de la noblesse égyptienne juive, on ne va pas aller se rabaisser à ramasser des briques et tout ça. Alors l'Agmara a dit, qu'est-ce qu'il avait, Pharaon? Il a mis un collier avec un moule à briques. Un moule à briques, un rectangle comme ça, en bois, où on met la terre dedans. Il a mis, et il rentrait lui-même dans le chantier. Et l'Agmara disait, Cloum, il stagnait sur terre, mi Pharaon, est-ce que toi tu vas être plus délicat que Pharaon? Ouais. Alors toi aussi tu peux travailler. Si déjà Pharaon, il vient avec le moule à briques dans le chantier, alors toi aussi tu peux travailler, aller dans le chantier. Ça va? Ça c'est le pshat. Mais le Zohar, il explique cette démarche différemment. Écoutez bien. Il dit que, en fait, que quand les policiers de Pharaon, ils ont dit aux Juifs, allez travailler, donc les Juifs, ils sont venus. Ouais. Mais ils avaient une telle madriga dans la connaissance de la Torah, et de la force et des cavanotes, que quand il leur a dit, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le Juif, il a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit, bah, tu vois là, ces 90 tonnes de pierre qui sont là, il faut les prendre, il faut les mettre là. Ça veut dire, il y en a pour 5 mois de travail, avec au moins 2 morts par jour. L'Agmara a dit, le Zohar, il dit, ben, le Juif, il a dit, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est concentré, comme ça, il dit, il s'est concentré. Avec la Kavana, il a levé les pierres, il les a posées là-bas. En 3 secondes, les 8 mois de travail. Il a dit, c'est tout, je peux rentrer à la maison maintenant, je vais étudier la Torah. Alors, les gardiens, ils ont été voir Pharaon, il a dit, on ne peut rien faire avec eux, parce qu'ils font des miracles. Ils veulent les pierres avec la Kavana. On ne peut rien faire. Comment on va les rendre esclaves? Ça ne sert à rien de les fouetter. Ils vont faire la pyramide en 10 minutes. Alors écoutez bien. Alors le Zohar il dit, donc, qu'est-ce qu'il a fait Pharaon? Il a pris le moule. Ça veut dire qu'il est venu leur dire. Il leur a dit, hé, ne regardez pas. Parce que comment ils arrivent à faire ça? Parce qu'eux, ils ne voyaient pas des pierres. Ils voyaient du Ratzon HaShem. Ils voient la volonté d'HaShem. Ils voient l'énergie. Ouais. Donc, ils disent, mais l'énergie d'HaShem, elle fait cette pierre.
Maintenant, cette pierre qui fait qu'elle est là, c'est-à-dire que dans l'univers cosmique, Hachem, sa volonté, elle est que la pierre, elle soit là. Mais étant donné que Tzadik Gozer, Adjoukou Mekayem, et Bédéré Chéros, c'est l'élève Moukhinoto, et que moi, je m'annule entièrement à la volonté d'Hachem, donc moi, je suis associé à la volonté de Dieu qui fait que cette pierre, elle est là, donc moi, je vais aussi m'associer à la volonté de Dieu que cette pierre, elle soit là. Donc avec sa Kavana, il arrivait à lever la pierre, parce qu'il ne voyait pas les pierres, il ne voyait que du Ratson Hachem. Vous me suivez ou non? Pharaon, il est venu, il a mis le moule, ça veut dire quoi? Il a dit, arrêtez de voir l'énergie, arrêtez de voir le nom d'Hachem partout. Regardez les pierres! Ça s'appelle l'Itgachem, c'est-à-dire devenir matériel. Et maintenant que tu es devenu matérialiste, la pierre, elle pèse 800 kg. Ouais? Maintenant tu dis, comment je vais faire avec l'argent? L'argent, il est dur. Ouais? Maintenant, comment tu dis, ah, j'en peux plus avec les enfants? Les enfants, ils sont durs. Et quand tu dis, oh, la conjoncture, elle est mauvaise. La conjoncture, elle est mauvaise. T'as été méga chèvre, méga chèvre, ouais, t'as été méga chèvre, Tadara. Tu l'as rendu matériel, tu l'as rendu lourd, ouais. Tu as dit la maladie, il paraît que les statistiques, c'est foutu. Il y en a encore, il m'a dit, j'ai fait Shabbat, il y avait 120 jeunes. Et là, il m'a dit, ah, mais Chéti, vous avez dit un truc, là, pour que la jeune fille, bon, ben, si elle n'est pas, c'est pas une jeune fille et qu'elle a fait des bêtises, si elle a vraiment fait tchouva et qu'elle n'a plus rien à voir avec celle-là, elle n'est pas obligée de dire. Elle m'a dit, mais moi, je vais me marier avec une fille vraiment, Betula. Alors vous dites qu'elle a le droit de mentir. Alors je lui dis, mais il dit, c'est quoi ton problème? Je lui dis, c'est quoi ton problème? Bah, tu vas épouser une fille qui est vierge. Il m'a dit, mais vous savez, mais chez Christ, on n'est pas dans un milieu très religieux, et c'est très rare de trouver une jeune fille qui n'a rien fait. À 15 ans déjà, ils y pensent, d'accord? Alors à 20 ans, déjà, elle est 8e copain. Ouais. Alors je lui dis, mais toi, tu veux te marier avec un statistique ou avec une personne? Peut-être que statistiquement, ouais, t'en as 8 sur 10 qui ont fait des bêtises. Mais toi, il ne faut pas 8 sur 10. Il te faut une. Alors, si toi, tu es vraiment attaché à ça, et que ce n'est pas pour embêter le monde entier, c'est que, Béhémet, tu penses et tu te préserves parce que tu voudrais une jeune fille comme ça, parce que toi aussi, tu n'as pas attention, parce que si toi, tu fais n'importe quoi et après, tu es exigeant, ça ne veut rien dire. Ouais. Et bien, pourquoi le bon Dieu ne va pas t'envoyer? Et là, Mouna, il dit, ok. T'as compris l'idée ou non? Ben non, après, t'as bien compris, il m'a dit oui. J'ai envie de voir maintenant que t'as bien compris. Tu peux me dire pourquoi est-ce que t'avais cette peur? Parce que pourquoi t'avais cette peur? Parce que t'as dit peut-être que je ne la mérite pas. Donc ta vraie question, c'est pas assez difficile de trouver une fille comme ça. Ta vraie question, c'est que je ne mérite pas ça. Et comme tu penses que tu ne mérites pas, pourquoi ça va t'arriver parce que tu ne mérites pas? Eh ben, l'idée de penser que tu mérites, c'est un niveau de Emouna. Ouais. Et bien ce niveau de Emouna que tu penses que tu mérites, c'est déjà une prière en soi. Donc tu veux, comme toi tu vois bien pour tes enfants, c'est comme si tu pries pour qu'ils soient bien. Mais quand tu vois mal, et bien c'est comme si tu pries pour avoir des mauvaises surprises. Parce que comme tu as peur d'être déçu, t'es déçu. Parce que tu as peur de décevoir, elle a fait que eux, ils n'ont pas ressenti la confiance, et comme ils n'ont pas senti la confiance, ils n'avaient pas confiance en eux, et comme ils n'ont pas confiance en eux, ils font des bêtises, et comme ils font des bêtises, ils te déçoivent. Et bien tu vois, et ben voilà pour ça, c'est ça que j'avais peur de ça. Mais pourquoi t'avais peur? Parce que tu n'avais pas l'émouda. Alors si déjà le manque de l'émouda dans les enfants est se concrétise par des comportements déviants, alors le manque de l'émouda dans Dieu, tu crois qu'il ne va pas créer des situations déviantes? Donc la vraie question dans la prière, c'est que, c'est ce qu'il dit le Rav Simcha Gisson, qu'un homme, il doit prier, pas pour dire à Dieu ce qu'il a besoin, parce que Dieu, il sait très bien ce que tu as besoin. Un homme, il doit prier pour se convaincre que la solution, elle vient d'Hachem. Atatalou, il veut. Vous me suivez ou non? Donc tu ne viens pas prier maintenant pour lui dire à Hachem, tu sais, je te rappelle le numéro de compte, le magasin, il ne fonctionne pas bien en ce moment, on ne retrouve pas le camion. Mais bon Dieu, il sait très bien que tu ne trouves pas le camion, parce que c'est lui qui a fait qu'il s'est perdu le camion. Tu veux, ouais. Le bon Dieu, il sait très bien combien tu gagnes, puisqu'il t'a fixé au centime près à Rosh Hashanah. Donc il sait combien. Ce qu'il veut voir, c'est que, est-ce que le fait de ne pas gagner, ça te remue, et le fait de que ça te remet en cause, et quand ça te remet en cause, donc tu te dis, je suis à la cause de ça, c'est ça, remettre en cause, c'est se remettre à la cause, ouais. C'est dans la loi des causalités. Tu acceptes que c'est toi la cause, c'est pas l'ambiance, c'est pas la conjoncture, c'est pas les mauvais employés, c'est pas le produit, c'est toi.
et que dans cette remise en cause, tu vas parler à Dieu, et à ce moment-là, tu as compris que la cause première, c'est Dieu. Donc, alors, c'est ça qui va donner le résultat de la prière. Ça veut dire que, en fait, la prière, c'est un exercice de l'émouna et un exercice de l'hypercorne en même temps. Et qu'à chaque prière que tu accomplis, normalement, tu dois augmenter ton niveau. Maintenant, quand Hachem t'envoie un problème avec un enfant, il t'envoie un problème avec la parnassa, il t'envoie un problème avec ton couple, toi, tu crois que c'est parce que tu as un problème que tu as prié. Non, en vérité, c'est le niveau que Hachem voulait que tu atteignes avec la prière, mais que malheureusement, il a pu déclencher cette recherche de niveau que grâce au problème. Donc en fait, la prière, ce n'est pas la solution du problème. La prière, c'est le but du problème. Donc les gens malins, ils prient avant que ça arrive. Et les autres, ils prient quand ça arrive. Donc vous avez compris. Hachem, il n'a pas besoin de nous pour qu'on lui explique c'est quoi le souci. Ouais, c'est quoi nos besoins. Par contre, il a besoin de nous. Parce que la seule manière de faire un avec Hachem, en fait, c'est la prière. Et que peut-être que même que toute la Avoda de toutes les 613 mitzvot et tout le limud Torah, c'est seulement pour arriver à la Dvekut dans la prière. Donc si c'est ça, maintenant on a compris pourquoi la prière, elle est tellement centrale dans la Avoda du Ben Israël. Ouais, pour ça que même les gens pas religieux, ils respectent la prière. Et c'est pour ça que la Gemara dans le Sota, elle dit, à la fin de la Gemara, elle dit que le monde, il tient sur la prière et sur l'étude de la Torah. Mais elle dit, mais quand tous les jours, depuis l'affaire du Beth Amikdash, tous les jours, le monde, il baisse, chaque jour, il baisse le niveau. Alors à la fin des temps, qu'est-ce qu'il y aura? La Gemara, elle donne une réponse incroyable. Elle dit que le minimum de la prière qui va rester, c'est quand on va répondre Yéché Merava. Et que le minimum de l'étude qui va rester, c'est que quand on fait on va les Sion, on dit des mots en hébreu et on les traduit en araméen. C'est le minimum du Talmud Torah, dit la Gemara. T'as compris, moi? Quand on dit moi je sais plus comment on dit, mais bon, complètement. Madame Comaro, c'est bon, Colacarotte. Alors juste avant que vous partiez, je voulais vous dire qu'on a sorti une nouvelle série de cours. Donc on en a fait 15, j'espère qu'il y en aura assez pour vous. Donc dans chaque CD, il y a 20 cours. C'est des inédits. En France, on appelle ça des idées. D'accord? Donc vous les prenez, ils sont gratuits, vous les copier, vous offrir à vos soeurs, vos belles-mères, les mettre sur vos téléphones, on vous soutient. Madame Moreau, et merci pour ceux en fin d'année qui participent par des dons pour le gala, parce que grâce à ça, on fait ça.
Parce qu'on peut dédier à la Réfoua
Chélima. Oui, alors, on va pour la Réfoua Chélima de
Edith
Batmeria. Amen. Et aussi pour
Moshe
Betraïm. Amen. Il faut répondre Amen. Le Amen est plus important. Et s'il vous plaît, il y a deux jeunes gens qui doivent passer dans un procès très grave. Ils s'appellent Aaron Ben Tzrecha et Gabriel Ben Tzrecha. Qu'Hachem les protège. Pour qu'il y ait un deal qui sort avec la clémence de notre chaîne, parce qu'il est de la maison dans les grands effets. Pour les blessés qui ont eu des attentats, on demande à Hachem qu'il leur envoie une fois chez Lima. On demande aussi pour Simcha Matzvecha, Esther Matzvecha, on demande pour le Rav Chaim Zvi Ben Sarah, pour Eliezer Yaakov Ben Yael, pour Shmuel Eliyahu Ben Suzanne Sarah, pour Rina Ben Esther, pour Olivia Shira Arsa Matlea, David Eliyahu Ben Naomi, Amen, pour les malades et les gens malades. Carmen, Batmazen, Amen, Baro, Mondéfaï, Mélaphamène, Ben Lilia, Amen. Ben, 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 Samedi Batistella. Samedi Batistella. Amen. 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 Amen